Vous écoutez, on lit pour vous.
Paul Cazac, Baudruches et Baudroies, un texte de Philippe Fortin paru le 10 juin 2025 dans les libraires. Janvier 2020, Paul Cazac ouvre La décennie avec ténèbres, un premier roman qui le hisse d'emblée au panthéon des auteurs, raflant de nombreux prix de part et d'autre de l'Atlantique, dont le prestigieux prix des libraires du Québec. 5 ans plus tard, le voici qui revient enfin avec un nouveau livre, « Le bonheur », une œuvre marquée par son ancrage historique et ses réflexions sur la mémoire collective. Entretien. Peu pressé de donner suite à la frénésie ayant entouré le triomphe de ténèbres, l'auteur bisontin, également éditeur à la Peuplade, a passé les dernières années à tâter différents pouls, à commencer par le sien propre. Comment écrire encore après avoir livré une telle œuvre? On croit qu'un succès libère, mais en réalité, il enferme parfois, confie celui que cette consécration précoce a surpris, sans toutefois qu'il se sente pris au dépourvu. Avant de me lancer dans un autre projet, j'ai voulu prendre le temps de bien digérer tout ça et de vivre tout ce qui venait avec, aussi. Installé à Montréal depuis maintenant quelques années, il admet n'avoir pas nécessairement cherché à consolider sa position dans l'écosystème livresque, cumulant divers projets s'inscrivant en parallèle des institutions littéraires, notamment le premier volume de « L'autre histoire du ski » 2021, fruit d'une résidence de création au centre d'art actuel Bang, à Chicoutimi. L'aboutissement du travail de création n'est pas une fin en soi, pour moi. Je considère que l'acte vaut pour lui-même. J'y prends plaisir et une bonne part de ce que je fais n'est absolument pas voué à devenir quoi que ce soit d'officiel. J'aime cette liberté qu'aucun impératif ne presse ou n'entrave. D'expérimentation conceptuelle en recherches exploratoires, Cazac avoue n'avoir rien cherché de précis, laissant au hasard de ses inclinations le soin de retourner les bonnes pierres au bon moment. Écrire, c'est chercher une vérité qui n'existe peut-être pas, c'est avancer en aveugle, confie-t-il. Le bonheur, roman qui paraîtra le 6 août prochain, a toutefois été en partie inspiré d'éléments dont l'auteur savait d'emblée qu'il formerait la base de son deuxième vrai livre. Je savais déjà que j'écrirais éventuellement un autre roman, oui, qu'il y aurait un ancrage historique, un propos sur la mémoire collective et la façon dont nos perceptions diffèrent. L'histoire n'est jamais qu'une succession de faits, c'est un récit qu'on nous présente. Sous la plume de Cazac, l'histoire prend ainsi les traits d'une matière vivante, malléable, que les personnages manipulent, réécrivent, renient parfois, interrogeant l'art de raconter et de se souvenir. Campé dans les ruelles sombres de la France occupée, où les ombres ne sont pas que celles des uniformes ennemis, mais aussi celles des âmes compromises, ce nouveau roman met en scène une trinité d'enfants qui cherchent à échapper aux multiples menaces qui les guettent. Parmi elles, Peter Panus, figure du mal, officier nazi aux contours troubles dont la densité va bien au-delà du simple méchant de service. Un méchant, oui, mais je n'aime pas les monstres simplistes. Le mal est souvent banal, mais il a aussi sa logique bien à lui, sa propre séduction perverse. Cazac a manifestement pris plaisir à jouer avec les archétypes, à les déconstruire pour mieux s'en servir tout en les retournant. Ce Panus, en qui on pourrait reconnaître une version dégénérée du Peter Pan de Barry, est un monstre, certes, mais un monstre dont la monstruosité se nourrit de contradictions et de dilemmes, usufruit d'une humanité dévoyée par l'abattement et l'opportunisme. J'ai toujours été fasciné par cette période de l'occupation. Les récits de ma grand-mère me hantaient, explique l'écrivain. J'écris aussi pour comprendre ce qui m'échappe, pour fouiller dans l'obscurité, sans trop savoir ce que j'y trouverai. La collaboration est une période honteuse et bien refoulée de l'histoire française, quelque chose qui glisse entre les doigts. J'ai eu envie de m'y plonger. Je n'écris pas pour juger. Ce regard sur l'histoire a été amplifié par diverses influences littéraires, notamment l'allemand W.G. Sebald, 1944-2001, et le chilien Roberto Bolaño, 1953-2003, moins dans les thématiques explorées que dans la façon de s'y prendre pour mettre en scène l'histoire. Ces auteurs m'ont montré comment l'histoire pouvait être une présence spectrale, toujours là, mais sans être au premier plan. Le passé n'est pas une toile de fond, c'est un écho. Mais le roman ne se limite bien sûr pas à son cadre historique. Pour Kazak, écrire, c'est poser des questions sans avoir besoin d'offrir de réponses, voire susciter de nouvelles questions. Le titre, Le bonheur, c'est un peu une provocation, oui. Je voulais que le lecteur s'interroge, qu'il se demande ce que le bonheur a à voir avec ce qu'il est en train de lire, et, par extension, qu'il se questionne sur sa propre vie, que l'idée même du bonheur parasite sa lecture et le taraude. Avec Le bonheur, Paul Kazak poursuit une entreprise littéraire singulière et rigoureuse qui s'épanouit dans les marges du spectaculaire et du convenu. Refusant les raccourcis de la narration linéaire ou les facilités du manichéisme, l'auteur construit une œuvre qui interroge, ébranle, dérange parfois, mais surtout qui exige du lecteur un engagement actif. Dans un paysage littéraire souvent pressé de plaire ou de capitaliser sur l'élan d'un succès, Kazak avance à contre-courant, préférant l'ombre féconde de la lenteur à la lumière éphémère de la médiatisation. Ce nouveau roman confirme ce que Ténèbres annonçait déjà, une voix littéraire d'une densité rare, à la fois élégante et incisive, capable de conjuguer beauté formelle et pensée critique. Il y a chez Kazak une quête du sens qui ne sacrifie jamais la forme, une exigence qui refuse la tiédeur. Ses livres ne cherchent pas à flatter les attentes. Ils creusent, grattent, mettent en lumière plis, refoulements, plaies et béances. Peut-être est-ce là justement que réside le vrai bonheur de lecture qu'offre Kazak. Dans cette capacité à faire résonner des vérités inconfortables à travers des récits qui refusent la facilité. Loin d'un idéal naïf, le bonheur évoque plutôt cette lucidité inquiétante, cette lumière vacillante qu'on trouve parfois au fond des ténèbres, pour peu qu'on ait le cran de s'y enfoncer. Écrire pour comprendre, lire pour résister, voilà l'invitation. C'était Paul Kazak, Baudruches et Baudroies, un texte de Philippe Fortin paru le 10 juin 2025 dans les libraires.
Jacques Parizeau, le professeur qui savait parler aux jeunes. Un texte d'Aïcha Van Doon paru le 3 juin 2025 dans Le Devoir. Le 1er juin 2015, Jacques Parizeau, l'ancien premier ministre du Québec, nous quittait, laissant derrière lui un héritage colossal qui fait l'unanimité dans tous les milieux, tant dans la classe politique que dans le monde des affaires. Les moins de 40 ans, malheureusement, le connaissent peu. Pour décrire ou rappeler l'être d'exception au parcours hors norme qu'était Parizeau, toutes sortes de formules ont été employées. Économiste diplômé de la prestigieuse London School of Economics, influent conseiller économique de Jean Lesage, professeur honoraire compétent et adulé à HEC Montréal, parrain de la Caisse de dépôt et placement du Québec, architecte de la Révolution tranquille, député, ministre et figure de proue du Parti québécois, dont il fut le plus pugnace des chefs. Dérangeant et controversé porte-étendard de l'indépendance, incomparable bâtisseur du Québec moderne, et j'en passe. Tout cela est juste, mais pour la génération Parizeau, dont je me réclame fièrement, Jacques Parizeau sera toujours le professeur qui savait parler aux jeunes. Avec son complet trois pièces, sa condition de bourgeois, son humour et ses manières d'une autre époque, disons que « monsieur », n'avait pas, à première vue, tellement d'atouts pour attirer les jeunes. Et pourtant, quand il allait à la rencontre des étudiants dans les cégeps et les universités, les salles débordaient. C'est M. Parizeau, entendu en conférence au Collège de l'Assomption, où je menais sagement mes études collégiales, qui a fait de moi une indubitable souverainiste. Jusque-là, mes parents m'avaient communiqué leur amour de la culture québécoise, mais ils l'avaient fait essentiellement en passant par le pays chanté par Félix Vigneault ou Pauline Julien. Or, Parizeau, dans son impressionnant discours, embrassait tellement plus large. Il nous parlait de commerce, d'administration publique et de politique étrangère avec panache et passion, en faisant appel à notre intelligence et surtout de façon totalement décomplexée. C'était la première fois que j'entendais un Québécois parler d'argent avec autant de force et d'assurance. Je ne l'ai jamais oublié. Je termine en vous relatant ce qui s'est passé au 12e congrès du Parti québécois, en août 1993, pour mieux illustrer la relation que Jacques Parizeau entretenait avec les militants de son aile jeunesse. À cette époque, le président du Conseil national des jeunes, CNJ, du Parti québécois, le jeune Christian Picard, souhaitait que son bureau parvienne à réformer les statuts de façon importante. Il voulait donner davantage de poids aux jeunes dans le parti en soumettant un ensemble de propositions pensées par son équipe. Il faut savoir qu'en ce temps-là, le président du CNJ et son bureau étaient élus par l'ensemble des délégués et non seulement par les jeunes. Par ailleurs, les jeunes n'étaient pas représentés au bureau national du parti. L'objectif derrière cette démarche était que les représentants du CNJ cessent d'être de simples porte-parole du parti auprès des jeunes pour devenir de véritables représentants des jeunes auprès du parti. Hélas, sur le plancher du congrès, les jeunes militants firent face à d'énormes résistances. On accusait notamment le CNJ de vouloir créer un parti dans le parti qui exigerait d'importantes ressources financières. On les invitait à exprimer leurs idées et à les faire cheminer dans les instances locales et régionales. Alors que tout semblait perdu, Christian alla trouver « monsieur » pour lui demander d'intervenir. On sait qu'il est rare qu'un chef intervienne ainsi en congrès. Mais voilà que Parizeau se lève, se dirige vers le micro, pour, et lance « Jacques Parizeau, 63 ans ». Évidemment, la salle éclate de rire. Le chef poursuit. Nous ne pouvons pas gagner l'élection et le référendum sans l'importante contribution des jeunes. Leurs propositions sont raisonnables. Appuyons-les. Réaction de la salle, ovation debout. Ultimement, l'intervention de Jacques Parizeau fut décisive puisqu'une majorité de délégués approuva les audacieuses propositions du bureau du CNJ. C'est de ce Jacques Parizeau que ma génération se souvient aujourd'hui, celui qui, comme tout bon professeur, savait parler aux jeunes. C'était Jacques Parizeau, le professeur qui savait parler aux jeunes, un texte d'Aïcha Van Doon, paru le 3 juin 2025 dans Le Devoir.
La règle du 3-30-300. Un outil essentiel pour une ville plus juste. Un texte d'Éric Robitaille, paru le 19 juin 2025 dans Le Devoir. C'est avec grand intérêt que j'ai lu l'article de Caroline Monpetit. La formule 3-30-300 est-elle simpliste en dépit des bienfaits des arbres? Dans Le Devoir du 16 juin 2025. L'article a le mérite de présenter au grand public cette règle de verdissement urbain et d'ouvrir un débat nécessaire. En tant que co-auteur d'une récente étude scientifique publiée dans la revue Géographie sur l'application de ce même indicateur à Montréal, je crois essentiel de nuancer la perception qu'ont certains de cet outil et de souligner sa véritable puissance. La formule 3, 30, 300, voir trois arbres de sa fenêtre, vivre dans un quartier avec 30 % de canopée et à moins de 300 mètres d'un parc, est effectivement une formule choc. Sa simplicité n'est pas une faiblesse, mais sa plus grande force. Elle traduit des objectifs complexes de santé publique et d'urbanisme en un langage clair et accessible, créant un élan pour l'action. Loin d'être une fin en soi, cette règle est avant tout un outil de diagnostic. Qualifier l'indicateur d'impérialisme de pays tempéré ou de simpliste, comme le fait le professeur Christian Messier, c'est confondre l'outil avec son application. Notre étude démontre justement que l'application de cet indicateur est ce qui permet de révéler et de quantifier avec une précision redoutable les inégalités qui traversent notre ville. Nos analyses, basées sur des données géospatiales de haute résolution, révèlent une hétérogénéité de la verdure à Montréal. L'indice de canopée varie de 0,8 % à 84 % selon les secteurs et la distance par rapport à un parc peut passer de quelques mètres à plus de 2,4 km. Le résultat le plus frappant de notre recherche est que seulement 19,4 % des quartiers montréalais satisfont simultanément aux trois critères. Ce chiffre ne témoigne pas de la faillite de l'indicateur, mais bien de son efficacité à produire un constat sans équivoque sur l'ampleur du travail qu'il nous reste à accomplir. Le véritable pouvoir du 3-30-300 se manifeste lorsqu'on le croise avec des données socio-économiques. L'article du Devoir mentionne que les quartiers défavorisés ont des arbres moins résilients. Notre étude va plus loin et prouve cette injustice par les chiffres. Nous avons établi une forte corrélation spatiale entre les zones de vulnérabilité socio-économique, dépendance économique, instabilité résidentielle et un faible accès aux espaces verts. Nos cartes des points froids, cold spots, des zones où le déficit de verdure est statistiquement significatif, se superposent de manière troublante avec des secteurs du centre et du nord-est de Montréal. Ainsi, l'indicateur ne se contente pas de dire « où planter ». Il nous force à répondre à la question « pour qui plantons-nous ? » Il devient un instrument de justice environnementale. Il est vrai que l'indicateur a ses limites. Il ne mesure pas la qualité, la biodiversité ou la perception de sécurité des espaces verts, des aspects cruciaux que nous soulignons nous-mêmes dans nos travaux. Il doit aussi être adapté. Pour des villes très denses, une règle comme le 2-20-200 a d'ailleurs été proposée. Cependant, critiquer la règle 3-30-300 parce qu'elle est simple, c'est un peu comme critiquer un thermomètre parce qu'il ne donne que la température. Son rôle est de prendre le pouls de notre forêt urbaine, de poser un diagnostic rapide et de nous alerter. Notre étude à Montréal confirme que l'alerte est bien réelle. Le défi n'est pas la prétendue simplicité de l'outil, mais la complexité de la volonté politique nécessaire pour traduire ce diagnostic en actions concrètes et équitables. C'était la règle du 3-30-300, un outil essentiel pour une ville plus juste. Un texte d'Éric Robitaille, paru le 19 juin 2025 dans Le Devoir.
Le loup au Yukon, entre fascination et controverse. Un texte de Gwendoline Lebeaumain, paru le 3 juillet 2025 dans l'Aurore boréale. Au Yukon, on estime qu'entre 4 000 et 5 000 loups parcourent le territoire. Espèce emblématique pour plusieurs Premières Nations, le loup occupe une place essentielle dans l'équilibre de l'écosystème. Pourtant, il demeure une figure controversée, à la croisée des enjeux culturels, environnementaux et sociétaux. Peter Namiller étudie le loup depuis 15 ans. Il est aujourd'hui coordonnateur du programme sur les loups au gouvernement du Yukon. Cette population varie d'une région à l'autre, mais en général, elle est relativement stable dans l'ensemble du Yukon. Les variations d'une région à l'autre s'expliquent en partie par des environnements et des habitats différents, ainsi que par la disponibilité des proies dans ces régions, explique-t-il. Les loups vivent en meute. Au Yukon, la taille des meutes varie beaucoup, mais elle peut aller de 2 loups jusqu'à 16, d'après ce que j'ai vu, rapporte-t-il. En moyenne, la taille d'une meute est plutôt de 6 ou 7 loups. Au sein de ces meutes, il y a généralement 2 loups dominants, le mâle alpha et la femelle alpha, qui sont les plus expérimentés et qui dirigent en quelque sorte la meute et apprennent aux plus jeunes à survivre. Acteurs clés dans l'écosystème. En général, les loups sont ce que nous appelons une espèce clé de voûte, c'est-à-dire qu'elle remplit un rôle écologique essentiel qu'aucune autre espèce ne peut remplir, affirme Peter Namiller. Les loups ont des effets à différents niveaux trophiques, autrement dit, à différents niveaux alimentaires, ajoute-t-il. Ils régulent les populations d'ongulés, les orignaux et les caribous, afin d'éviter le surpâturage, ce qui a un effet d'entraînement sur tous les niveaux de la biodiversité et garantit un écosystème stable, sain et équilibré. Si l'on supprime un prédateur clé comme le loup, les populations des espèces qu'il chasse peuvent exploser, repoussant les autres organismes et réduisant la diversité des espèces, précise-t-il. Charles Cherrier est photographe animalier et a pour objectif de comprendre le comportement des loups depuis qu'il est arrivé au Yukon il y a 5 ans. Il pose plusieurs caméras en forêt autour de Whitehorse, entre autres, pour observer ces animaux et collabore avec Peter Namiller. C'est un animal qui s'adapte très facilement, mais qui est aussi sensible à son environnement. Dès le moindre changement, il s'en rend compte, partage-t-il. J'ai observé, il y a un temps, que les loups avaient abandonné la tanière qu'ils utilisaient, car les arbres s'étaient effondrés dans tous les sens à cause d'une tempête. Une autre fois, j'ai mis un piège photo pour prendre avec ma caméra des photos avec un détecteur. Ça ne leur a pas plu. Ils ont fait des détours. Pas grand-chose, peut-être de 2 mètres, mais juste assez pour qu'il ne passe pas à l'endroit où je voulais. Et pourtant, c'était camouflé. Espèce controversée. Peter Namiller rapporte que les loups sont aussi victimes de préjugés. Au Yukon, les loups ont une grande importance sociale et culturelle, tant pour les Premières Nations que pour les Yukonais. Pourtant, aujourd'hui encore, comme depuis des siècles, les loups sont souvent perçus comme une espèce controversée. Certaines personnes souhaitent les voir disparaître, tandis que d'autres estiment que les loups sont comme un symbole de la nature sauvage et qu'ils doivent être protégés. Les loups sont également accusés de faire diminuer la population de caribous, une accusation que Charles Cherrier et Karine Genet, documentaristes de la faune, productrices, directrices et cinématographes, réfutent. On a le problème de la population de caribous qui diminue fortement, comme au Québec ou en Colombie-Britannique, explique le photographe animalier. Certes, les populations de prédateurs font diminuer les populations de proies, mais ils ne vont jamais les faire disparaître et ne seront jamais la cause d'une disparition. Et puis, Les animaux ne font pas ce qu'on appelle de l'overkilling parce que c'est inutile pour eux. Charles Cherrier et Karine Genet font également référence à une étude publiée par Peter Namiller en 2021 sur les populations de loups des lacs du Sud au Yukon. Le but était de savoir si le loup avait un impact sur le déclin de la population de caribous. Finalement, l'étude a révélé que les meutes étudiées tuent des orignaux dans 75 % des cas et des caribous dans 25 % des cas. Les loups s'attaquent donc principalement aux orignaux. Entente entre les loups et les humains. Aujourd'hui, nous assistons à une forte augmentation de la population humaine, ce qui accroît les pressions. L'homme s'intéresse davantage à la chasse à l'orignal et au caribou. Toutes ces espèces, y compris les humains, doivent donc être gérées avec soin. Dans les zones où la pression est plus forte, nous devons veiller à maintenir une population durable et saine de toutes ces espèces, explique Peter Namiller. Les loups sont une espèce territoriale et ils protègent leur domaine vital afin d'avoir accès à une source de nourriture et à un habitat substantiel. Et ils défendent ce territoire contre d'autres meutes de loups. Cela peut donc souvent entraîner des décès. À part cela, l'homme est la deuxième cause de mortalité des loups. Il s'agit de la chasse et du piégeage. Ces deux activités sont légales et ont lieu au Yukon. En moyenne, environ 200 loups sont capturés chaque année, 150 par le piégeage et 50 par la chasse. Ce niveau de prélèvement n'est pas très important au niveau de la population, estime le coordonnateur. Par conséquent, les pressions exercées directement par les humains sur les loups à l'heure actuelle au Yukon ne sont pas préoccupantes, affirme-t-il. Il rapporte que, bien qu'ils soient peu fréquents, les conflits entre l'homme et le loup au Yukon suscitent des inquiétudes, en particulier dans les zones où le développement humain s'étend dans l'habitat du loup. Les loups peuvent entrer en contact avec le bétail ou être perçus comme une menace pour les animaux domestiques, ce qui peut entraîner des conflits. Toutefois, au Yukon, de nombreuses personnes comprennent l'importance des loups dans l'écosystème, estime Peter Namiller. Des efforts constants sont déployés pour réduire ces conflits grâce à l'éducation et à des moyens de dissuasion non létaux. C'était « Le loup au Yukon », entre fascination et controverse. Un texte de Gwendoline Lebeaumain, paru le 3 juillet 2025 dans l'Aurore boréale.